nourrit l'esprit, te nourrit les perspectives, nuances.
À 16h30 sur Radio Galère, c'est l'émission libre des débats dans laquelle le collectif Sans Papiers ni Frontières s'invite. Et là, il va y avoir une émission sur une lutte de femmes immigrées dans le secteur du nettoyage. Et cette émission, elle va essayer de faire le lien entre le travail des femmes et le capitalisme. Et donc, c'est une fois par mois à 16h30 sur Radio Galère. Et sinon, on arrive à la manif, mais j'ai pas le jingle en main. Donc on le passera après, on peut peut-être envoyer sur les lectures de texte, sinon.
Allez, une petite lecture d'un texte pour faire un anniversaire, une fois n'est pas coutume. Voilà, 9 mars 2011, 9 mars 2013, il y a 2 ans, le centre de rétention du Canet à Marseille était mis hors service. Il y a 2 ans, un incendie a conduit à la fermeture de cette prison pour sans-papiers pendant plusieurs mois et a permis quelques évasions. Déclenché de l'intérieur du centre, dans 2 blocs distincts, il ne s'agit ni d'un acte désespéré, ni d'un acte isolé. En réponse, l'État a mis 15 personnes en garde à vue, 6 en préventive. À ce jour, après 3 et 5 mois passés en prison, 2 personnes sont inculpées. Elles doivent se soumettre à un contrôle judiciaire et sont toujours dans l'attente d'un procès. Sans papier, ils sont dans l'interdiction de quitter le territoire français. Cet incendie s'inscrit dans une longue série de résistances menées à l'intérieur et à l'extérieur des centres de rétention. Le 22 juin 2008, incendie au centre de rétention de Vincennes. Le 19 janvier 2009, à Bordeaux. Le 9 mars 2011, à Marseille. Le 29 juillet 2011, à Lyon. Et à nouveau, le 1er septembre 2012, à Marseille. En Italie, les révoltes et évasions sont fréquentes. En février, à Turin, des prisonniers ont tenté de s'évader. Durant plusieurs jours, ils sont montés sur les toits, ont détruit et incendié plusieurs bâtiments, se sont affrontés aux flics. À l'extérieur, plusieurs rassemblements et actions de solidarité ont eu lieu. La liste est longue et non exhaustive. Des axes de résistance individuels et collectifs, de l'évasion à la destruction des centres, se produisent dans toute l'Europe, à ses frontières, dans le monde entier. Mexique, Australie ou Mayotte. Le pouvoir et les médias ont tout intérêt à invisibiliser et isoler ces luttes. Chaque incident est traité sous l'aspect du fait divers sur le moment et ensuite on oublie. Décrire les résistances individuelles et collectives comme autant d'actes isolés a pour objectif de nous maintenir résignés face aux frontières et à l'arsenal policier et militaire nécessaire à les faire exister. Mais nous savons que partout des gens luttent contre les frontières. Nous sommes solidaires de ces luttes et nous luttons aussi parce que les frontières nous divisent et nous mettent en compétition les uns contre les autres. Elles permettent de tirer les conditions de travail vers le bas, de désigner des boucs émissaires, d'étendre les dispositifs de contrôle social et policier, toujours au profit des classes dominantes. Solidarité avec les inculpés de l'incendie du centre de rétention du Canet, liberté de circulation et d'installation, abat toutes les frontières.
Thank you. à 2h du matin par des tueurs indécis et chauves.
Je mourrai sans m'apercevoir que je meurs. Je mourrai enseveli sous les ruines sèches
de 1000 mètres de coton écroulé. Je mourrai noyé dans l'huile de vidange foulée aux pieds par des bêtes indifférentes et juste après par des bêtes différentes. Je mourrai nu ou vêtu de toile rouge ou cousu dans un sac avec des lames de rasoir. Je mourrai peut-être sans m'en faire du vernis à ongles, doigts de pied.
Il y en a marre de baisser la tête. Alors descendons dans la rue.
Rendez-vous le 16 mars, porte d'Aix à 16h.
Les murs tombent.
Samedi 16 mars, rendez-vous 16h, porte d'Aix. 16 mars, manifestation contre la traque des pauvres.
Parqués dans des apparts pourris.
Expulsés de nos logements, de nos quartiers.
Exploités dans des boulots sous-payés.
Traqués par les flics et les caméras.
Enfermés dans des prisons, des centres de rétention.
Humiliés à la PREF, à la CAF, à Pôle emploi.
Il y en a marre de baisser la tête.
Le quotidien est une lutte, et seul, je perds.
Alors descendons dans la rue, le 16 mars.
Pour nous battre contre la traque des pauvres.
Pour continuer à nous exploiter, à s'enrichir sur notre dos, en nous balançant des miettes de plus en plus maigres, le système capitaliste nous divise en nous montant les uns contre les autres.
Plus nos conditions de vie se précarisent, et plus on nous resserre la soupe du c'est la faute à, toujours plus pauvre que soi. Alors on trouve chacun son étrangère, son chômeur, son RSA, sa fraudeuse, son rhum.
Pourtant ce sont leurs intérêts qui sont en jeu, lorsqu'ils nous divisent et nous précarisent.
Dans le contexte de crise que nous vivons, les offensives contre les pauvres vont se multiplier.
À Marseille, plus belle la vie se rentabilise et se sécurise. Et ce sont les pauvres qui ramassent comme toujours.
La mairie, l'État et leurs amis du patronat organisent la restructuration de nos quartiers, en clair leur destruction.
Ils construisent une métropole où les liens qui nous restent pour survivre par l'entraide et la débrouille sont passés au rouleau compresseur.
Ils nous parquent dans des ghettos de plus en plus loin et construisent des quartiers pour riches, des musées, des capitales européennes de la culture.
Environ les pauvres de Noailles, la Joliette, la Belle de Mai, les Crottes, la Busserine, Saint-Barthélemy.
Marseille devient la ville où on ne veut plus voir traîner.
Alors faire du bruit dans ces rues prend tout son sens.
Parce qu'être solidaire, c'est lutter contre les séparations.
C'est comprendre que nous avons les mêmes intérêts contre ce système.
C'est se battre contre le contrôle et la répression. C'est se battre contre le contrôle et la répression.
Rendez-vous le 16 mars, porte d'Aix à 16h.
Apportez vos casseroles et sortez vos pétards.
Les murs tombent.
Parce qu'il y en a marre.
Les murs tombent.
Et bim.
Et bim.
Ouais, vous êtes toujours sur une des chaînes. Oui, ils détruisent nos quartiers. Et ça n'a pas commencé hier. Donc moi aujourd'hui, je voulais essayer de vous parler de l'histoire du port autonome de Marseille et en particulier un peu d'essayer de mettre ça en lien avec tout ce qui a eu lieu en termes d'urbanisme ou d'urbanisation en tout cas de Marseille et de toute la zone autour de l'étang de Berre, donc avec la construction du complexe portuaire de Foss. Je sais pas, oui. Ouais, donc, du coup, on va commencer cette histoire en repartant au début des années 40. Donc, avec un petit montage qui est le lecteur d'un texte qui est issu de la revue municipale d'octobre 1942, donc de la municipalité de Marseille. Alors ce texte, il a été écrit par un académicien du nom de Louis Gillet et c'est un texte qui essayait de justifier le plan Baudouin, qui était donc le plan d'urbanisme en vigueur à l'époque. Donc je rappelle à l'époque, on était sous la France de Vichy et ce plan, il n'était pas forcément le bienvenu, donc on essayait de le légitimer, notamment par ce genre d'écrit. Donc vous allez entendre une description des quartiers de la rive nord du Vieux-Port, donc les quartiers de l'Hôtel de Ville, du quartier Saint-Jean et le quartier du Panier, ça vaut le coup.
Dans ce cadre, depuis longtemps tombé en roture et déserté par le commerce, l'auteur du plan, Monsieur Baudouin a le dessein de ramener une grande absente, la noblesse. Sur la colline des Accoules, entre l'hôtel de ville et la major, gît une suburbe obscène, un des cloaques les plus impurs, où s'amasse l'écume de la Méditerranée, triste gloire de Marseille, dans une décrépitude et un degré de pourriture dont à grand-peine, sans l'avoir vu, on pourrait se faire une idée. Il semble que la corruption, la lèpre, gangrène jusqu'aux pierres. Cet enfer vermoulu, cette espèce de charnier en décomposition, est un des lieux du monde où la tuberculose fait le plus de ravages. C'est l'empire du péché et de la mort. Ces quartiers jadis patriciens, abandonnés à la canaille, à la misère et à la honte, quel moyen de les vider de leur pu et de les régénérer ?
Ouais. Et donc voilà, donc la pourriture envahissait Marseille et il fallait bien faire quelque chose. Et du coup, on va faire appel à cet architecte, donc l'architecte en chef du gouvernement de Vichy, monsieur Eugène Bedouin, qui va rédiger ce plan d'urbanisme qui se donnait pour objectif premier d'assainir les quartiers insalubres, on y est déjà, et de diminuer la densité du centre-ville. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce plan, il prévoyait déjà en 1941 d'organiser un nouveau réseau routier à l'échelle des distances et des vitesses automobiles. Donc déjà, l'apparition de la voiture. Donc un réseau qui doit permettre de canaliser la circulation pour satisfaire aux besoins futurs. Donc, on voit déjà hein, en 1940... D'une part, un peu les premiers stigmates de la gentrification et d'autre part, un peu ce qui deviendra plus tard la domination automobile des villes. Et donc, il fallait pour cela commencer par vider ces quartiers de leur pu, comme le disait Louis Gilet. Et pour faire cela, ben, on va plutôt raser tout ça parce que c'est bien plus simple. Et on va donc se débarrasser de quelques rues du coin, donc la rue du Château Joli, la rue du Coin de l'Humilité, la rue du Figuier de Cassis, la rue des Trois Soleils et de 46 autres rues qui jouxtaient le Vieux-Port. Et se débarrasser aussi de leurs habitants. Donc du coup, comment faire ? Alors à Marseille, on avait l'expérience avec le quartier qu'on appelait de derrière la Bourse, donc en gros là, l'endroit où gît le centre Bourse. On avait essayé d'exproprier les habitants, ça avait pris 20 ans et ça avait coûté vachement d'argent. Et là, comme on était ben, en pleine guerre, on allait demander plutôt à nos ennemis de nous aider à le faire. Ça passait beaucoup mieux pour l'opinion, c'était beaucoup plus simple. Et du coup, c'est ce qui va se passer du 24 janvier au 19 février, où l'armée allemande va dynamiter la quasi-totalité des immeubles et des quartiers concernés. Donc du coup, cette histoire, elle commence 10 jours plus tôt, donc entre l'armée allemande et les autorités françaises. Donc le 14 janvier, il va y avoir une réunion et ces autorités, elles vont décider conjointement de procéder à une gigantesque opération de police qui va viser, alors attention parce que la liste est longue, les repris de justice, les souteneurs, les clochards, les vagabonds, les gens sans aveu, les personnes dépourvues de cartes d'alimentation, les juifs, les étrangers en situation irrégulière, les expulsés et toutes les personnes ne se livrant à aucun travail légal depuis un mois. Donc ça fait du monde. Et donc le 22 janvier au soir, bah, y a plusieurs milliers de gendarmes, de gardes mobiles et d'inspecteurs des deux camps, allemands et français, qui vont envahir les rues de Marseille et y mener du coup la plus grande rafle que la ville ait jamais connue. En 6 jours, alors pas seulement dans les quartiers concernés du Vieux-Port, hein, y en a eu aussi... dans des quartiers notamment de la Belle de Mai et de la gare. Donc en 6 jours, les forces de l'ordre vont procéder à plus de 400 000 contrôles d'identité. Et par contre, dans ces quartiers situés au nord du Vieux-Port, bah, y a 25 000 personnes qui allaient être expulsées de leur logement et entassées sur le port. 12 000 d'entre elles quand même seront arrêtées. La plupart vont être assez rapidement libérés, mais quand même 1650 vont être envoyés dans des camps de concentration. Alors bien sûr, parmi elles, des juifs, des communistes, des homosexuels, mais aussi 870 personnes à qui on reprochait essentiellement d'habiter le quartier. Donc la destruction de ces quartiers pouvait commencer, et dès le 24 janvier, les premiers immeubles étaient dynamités. Et donc voilà, donc le 24 janvier, les premiers immeubles étaient dynamités, et bizarrement, le 25 janvier, eh ben, à Marseille, on crée une société immobilière qui était mandatée par le préfet de l'époque, donc qui s'appelait Barrault, qui était chargée de la reconstruction de certains quartiers. Et bien bizarrement, alors que les autorités françaises n'avaient rien à voir dans ce dynamitage des quartiers du Vieux-Port, et que donc ils ne savaient pas du tout quels allaient être les quartiers concernés, et bien bizarrement, cette société immobilière devait être chargée de reconstruire précisément les quartiers qui allaient être détruits par la Wehrmacht. Les autorités locales vont évidemment plaider la pure coïncidence, mais il y a quelques mauvais esprits à l'époque qui voyaient le mal et une preuve de la complicité des autorités françaises. Alors notamment, il y a une petite dans un texte qui s'appelle Le Car, il y a un écrivain grec qui s'appelle Nikos Kawadias et qui fait une petite une sorte d'odyssée de la Méditerranée, et qui fait dire à ce propos à une prostituée qui est rencontrée par le héros sur le Vieux-Port: c'est pas la faute à ces salauds, ce sont les nôtres qui le leur ont fait faire. Donc voilà, chacun en pensera ce qu'il veut. Donc une fois fait place nette, pourrait-on dire, on pouvait donc mettre en œuvre ce fameux plan Baudouin. Et donc on va commencer en 1946, à l'époque de la reconstruction de la France, avec à Marseille la reconstruction du Vieux-Port. Et donc à Marseille comme ailleurs, à cette époque, c'est l'État qui est aux commandes et qui va nommer tous les urbanistes et les architectes qui vont être chargés de superviser les travaux de reconstruction, et qui vont être particulièrement chargés d'imposer les principes de la charte d'Athènes comme base de reconstruction du pays et de ses villes. Alors la charte d'Athènes, c'est un truc qui a été établi lors d'un congrès international d'architecture en 1933, et qui a été co-rédigé et co-signé notamment par un mec qu'on connaît assez bien à Marseille qui s'appelle Le Corbusier. Et cette charte, elle définit à la ville quatre grandes fonctions, donc qui sont habiter, travailler, circuler et se cultiver. Et elle va instaurer un système de zonage qui divise la ville donc en quartiers usines, quartiers dortoirs, quartiers spectacles, etc. Donc avec une ville construite selon une géométrie assez simple et qui est surtout propre à faciliter l'activité productrice. Et donc une des premières conséquences de ce découpage en zones, enfin en zones qui ont toute une fonction assez rigide, on va dire, c'est de faire disparaître la rue. Parce que la rue, c'est l'endroit où, en fait, quand on se penche par la fenêtre du lieu où on habite, on a immédiatement accès au lieu où on travaille, au lieu où on circule, au lieu où on se divertit. Et tout ça un peu mélangé, c'est... Forcément, pour les autorités, ça rend le contrôle plus difficile. Et du coup, on va remplacer ces rues par des grandes voies de circulation difficilement franchissables. Et les pâtés de maisons vont être remplacés par des tours d'habitation ou de bureaux qui vont être entourés de parkings et de ce qu'on peut appeler des fois des espaces verts. Donc, autrement dit, entourés de rien. Et du coup, on va aboutir à cette création d'un espèce de climat qui n'est pas vraiment urbain, enfin, on ne se sent pas vraiment en ville. Et on va créer des villes nouvelles qui ont la volonté, en tout cas, d'être seulement fonctionnelles, efficaces, un peu comme des grandes usines, quoi. Et on voit bien un peu cette idée de l'architecture dans ce qu'on appelle la maison du Fada à Marseille, la cité radieuse du Corbusier, un peu cette idée de supprimer complètement la rue et de faire des rues intérieures qui sont plus du tout tournées vers l'extérieur. Voilà. Donc, dans le respect de cette charte, hein, mais aussi donc du plan Baudouin qui promettait en 1941 que la population, je cite, hein, la population des salariés inférieurs, des sans-travail, des petits artisans qui vivent entassés dans une ou deux pièces sera transférée dans les centres de relogement à la campagne, et ben à Marseille, on va reconstruire donc le vieux port en divisant la densité de population par trois, en construisant des immeubles, des appartements plutôt de grande taille, dans des immeubles en pierre, qui permettront ainsi de virer tous les pauvres qui habitaient auparavant dans ces quartiers, enfin qu'on avait déjà expulsés auparavant. Et du coup, les gens qui s'étaient fait expulser en 1943, et ben eux vont être relégués dans les toutes nouvelles tours d'habitation qu'on a construites en béton et non pas en pierre, dans le quartier du Canet, et ils y seront bientôt entouré par l'autoroute A7 et l'autoroute 555-7. Donc voilà, donc eux-mêmes, ils vont se retrouver dans cette situation où ils sont ni habitants de la campagne, ni habitants vraiment de la ville. Bon, je rappelle qu'on leur avait promis la campagne. Mais, et du coup, on va leur vendre la télé comme outil de distraction et surtout la voiture comme outil de travail et de sortie dominicale. Et donc voilà, donc on arrive en 1959 et on va abandonner enfin le plan Baudouin. Et pour adopter un nouveau plan, évidemment, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc celui-là va s'appeler le plan d'urbanisme directeur et il va établir pour Marseille la liste des opérations à mener pour les 20 ans à venir. Donc on va construire, alors l'autoroute Marseille-Aix avait déjà été construite, mais on va construire une autre autoroute en direction d'Aubagne. On va aussi recouvrir le ruisseau du Jarret par une 2x3, 2x4, 2x5 voies. On va construire le tunnel du Vieux-Port, on va élargir la corniche en 2x2 voies, on va prolonger l'autoroute du littoral, etc. etc. Et cela pour permettre les futures allées et venues quotidiennes entre Marseille et les communes voisines, dont on prévoyait déjà une forte augmentation. Parce que, en effet, rien comme souvent, rien ne se passe comme prévu. Et Marseille était, dans ce début des années 60, en train de devenir un peu une sorte de gigantesque cité dortoir pour les ouvriers qui allaient tous bosser à l'extérieur. En effet, à Marseille, le commerce portuaire était en pleine décadence, on pourrait dire. Parce que c'était la décolonisation et le port de Marseille, ça avait été surtout un port colonial qui faisait du commerce avec les colonies. Et depuis 10 ans déjà, donc depuis les années 50, dès le début des guerres de décolonisation, les produits qui circulaient vers de la métropole vers les colonies et inversement via le port de Marseille, ils avaient été remplacés par des contingents de militaires, des chars, des munitions en direction des mêmes colonies. Mais pour le port de Marseille particulièrement, ça a eu pas mal de conséquences parce que le commerce portuaire pouvait plus avoir lieu, non seulement parce qu'il y avait plus de colonies, mais en plus parce que les ports étaient sans cesse occupés par ces militaires. Et les travailleurs des ports étaient sans emploi. Et notamment au tout début des années 50, entre 50 et 53, je n'ai pas exactement trouvé la date, il y a eu des grèves des dockers à Marseille qui protestaient contre la guerre d'Indochine parce que ça leur piquait leur boulot, clairement. Et je fais juste une petite parenthèse pour dire qu'il y a un film où on voit des images de ces grèves Donc c'est un film de fiction, mais avec des images d'archives qui sont glissées au milieu. C'est assez intéressant à voir. C'est un film qui s'appelle Le Rendez-vous des quais, et qui a été tourné par Paul Carpita et qui a été interdit pendant 35 ans. Donc voilà, apparemment il y a quand même certaines scènes qui faisaient partie du film qui n'ont jamais été retrouvées, mais le film est assez chouette à voir. Donc bref, à cette décolonisation s'ajoutaient aussi les premiers balbutiements de l'Europe. Donc en 51 on avait créé la communauté européenne du charbon et de l'acier, en 57 on a signé le traité de Rome qui a institué la communauté économique européenne, et ça va déplacer quand même les centres de production et d'échange industriel vers le nord de l'Europe, et du coup plutôt favoriser des ports comme Rotterdam, enfin plutôt des ports qui sont situés sur le nord de l'Europe. Et du coup, avec ces deux éléments, bah, le port de Marseille, il perdait une grande part de son activité. Et parallèlement, donc, on est dans ces années 60 où la croissance industrielle bat son plein dans l'ensemble du monde occidental, le système industriel marseillais, lui, est en pleine déliquescence. Il s'articulait essentiellement autour de l'industrie des corps gras, où il y avait quand même 30 savonneries et 15 huileries qui fonctionnaient sur Marseille. De l'industrie chimique, parce qu'on exploitait l'alumine extraite en Provence, alors que la Provence était une des principales sources d'alumine. Et de l'industrie alimentaire. Et alors après, moi... c'est une analyse un peu peut-être boiteuse, mais peut-être parce que justement il y avait cette tradition par rapport au port de commerce avec les colonies. Bah, il se trouve que en fait les entreprises marseillaises, elles vont super mal s'adapter au triomphe du capitalisme industriel, et elles vont pas du tout chercher à contrôler l'ensemble de la chaîne de production comme l'ont fait les multinationales, à posséder les sources de matières premières ou à exercer une situation de monopole. Elles vont rester dans un espèce de truc où il y a une fonction de capitalisme négociant, on va dire, commercial, où à un moment, une partie de la plus-value est faite sur le principe de l'échange inégal avec les autres négociants. Et du coup, elles vont se faire bouffer par les multinationales qui, elles, cherchent à exercer... un monopole donc sur l'ensemble de la chaîne de production, de l'extraction des matières premières au service après-vente, et où du coup le profit basé évidemment essentiellement sur l'exploitation des travailleurs, mais aussi à partir donc d'une situation de non-concurrence commerciale qui permet cette exploitation des travailleurs encore plus. Donc par exemple à Marseille, ça a été le cas avec Lever, donc qui est devenu depuis Unilever, et qui à l'époque ne faisait pas dans le thé éléphant mais seulement dans le savon et la lessive. Et Lever, il va racheter certaines des usines locales, donc certaines des savonneries marseillaises, et grâce auxquelles il va pouvoir asphyxier les autres, donc en jouant d'une sorte de, on dirait, concurrence déloyale, quoi. Et une fois que cette concurrence va être éliminée, Lever va fermer les usines qu'il avait préalablement rachetées pour pouvoir délocaliser principalement dans les pays nouvellement décolonisés où la main-d'œuvre était pas chère et du coup augmenter sa plus-value. Et du coup, en 1974, la dernière huilerie encore présente à Marseille va fermer ses portes. Voilà, donc le port est en plein déclin.
Te voilà. Qu'est-ce que tu étais en train d'arroser ? j'arrose ma soif puisque je ne peux plus arroser ma terre.
Fais l'innocent, ça te va bien. Espèce de saligo.
Oh là là, on dirait que je t'ai vendu des fèves qui ne voulaient pas cuire. Qu'est-ce que tu es venu me dire ?
Je vais te dire très gentiment que si tu recommences...
S'il vous plaît, un peu de calme, il y a une malade ici.
Quoi ? Mireille est malade ?
Une dépression nerveuse, qu'il appelle ça, le docteur. Moi, je dis qu'elle est en train de se laisser mourir. Et ce sera toi le responsable.
Ah.
De ça, comme du reste. Elle était. Bois, profites-en. Oh là là, c'est le dernier tonneau. Et du vin comme ça, on n'en boira plus jamais, puisque ma vigne de sauveterre, elle a été arrachée. Pour faire passer vos putains de camions.
Merde, ça recommence ? Enfin, t'as été dédommagé.
Tu veux que je te les montre, les papiers ?
Non.
Non, tu as raison. Hein. C'est dédommagé. Pour faire passer vos saloperies d'engins qui empoisonnent toute la nature à 100 km à la ronde, il fallait une route. Oui, une bretelle de déviation, comme vous dites.
Exactement.
C'est ça, oui. Oui, 40 mètres. Qu'est-ce que je dis ? 800 mètres même. Le double, tu entends ? Tu sais combien ça en fait des hectares du petit rosier que tu as devant toi, là ?
J'en sais rien, puis je veux pas le savoir, puis t'en sais rien.
J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ma vigne, elle a été arrachée de moitié. Et l'autre moitié qui me reste, elle pourrit petit à petit parce qu'elle respire du mazout à longueur de journée. Et quand il y pleut dessus, ce n'est plus de l'eau du bon Dieu qu'elle boit, mais une sorte de bouillasse toute noire, toute grasse, qu'on dirait la pisse du diable.
Mais nom de Dieu, t'as été dédommagé, je te l'ai déjà dit.
Comme le vieux Bastide. Le pauvre, quand on lui a fait passer le pipeline dans le jardin, il est monté dans le grenier et il s'est pendu à la grosse poutre.
Le vieux Bastide, il était fou depuis longtemps, tout le monde le sait. Nom de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre que même tes enfants, au lieu de devenir de pauvres vignerons comme toi, vont devenir heureux. Toute la région va devenir heureuse. Grâce au pétrole et à l'industrie.
C'est ça, ouais.
Y a donc rien là-dedans.
Oh si, Maurice, oh là là, si. Il y a de la tristesse, beaucoup de tristesse et de l'ennui. Et ça, comprends-le à ton tour, ça ne peut pas s'indemniser. Tu es un salaud, Tardenois, tu entends, un salaud et un traître. Tu as même perdu notre accent.
Non, faut pas pousser, je suis né à Grenoble.
Ouais, alors du coup, c'était un extrait, certains ont peut-être reconnu, des 5 dernières minutes, qui était une série policière qui a duré quand même pendant près de 40 ans, qui était plutôt mauvaise. Mais des fois, on y trouve des espèces de chroniques sociales, enfin, il y a des moments un peu marrants, il y a des épisodes qui se passent pendant le déménagement des halles de Paris au marché de Rungis, enfin, des trucs un peu comme ça. Donc celui-là, cet épisode, il s'appelle « Meurtre par intérim ». Et là, dans cet extrait, on entendait Pierre Brasseur, qui jouait le rôle d'un entrepreneur dans un entrepreneur immobilier et qui s'engueulait avec son vieux pote qui est agriculteur dans la Croix et qui s'est fait raser toutes ses vignes. Donc voilà, ceci pour introduire une deuxième partie qui va être plus particulièrement centrée sur la construction du complexe de Marseille-Fosse. Donc on en était sur les docks de Marseille et l'activité était en plein déclin. Mais paradoxalement, en même temps, le tonnage brut annuel qui transite par le port de Marseille, lui, il explose. En effet, parallèlement au déclin de ces industries traditionnelles, on va assister à l'essor des industries pétrolières et pétrochimiques. Donc, mais le problème pour Marseille, ça va être que si l'industrie décor gras, ben, elle était implantée plutôt dans le centre de la ville, les industries pétrolières et pétrochimiques, elles, elles se concentraient à l'extérieur de la ville, entre autres autour de l'annexe portuaire de l'Avera, près de Martigues. Et du coup, cette annexe, elle avait été conçue spécialement pour le transit et le stockage de ces produits pétroliers. Elle était en fonction depuis quelques années déjà, puisque dans les années 30, il y avait Shell qui s'est installé à Berre, BP à Port-de-Bouquet à la Vera et Total à la Med. Donc par là, le port industriel de Marseille trouvait une nouvelle voie, on va dire, mais ça allait se faire sans Marseille. D'autant que en 1963, le tunnel du Rove, qui était qui est toujours d'ailleurs un gigantesque ouvrage qui fait d'une largeur de 22 mètres et d'une longueur de 7 km, qui est creusé sous la chaîne de l'Estac et du coup qui reliait par voie maritime la rade nord du port de Marseille à l'étang de Berre, bah, il va s'écrouler en 1963 et du coup Marseille est séparée du reste du port autonome. Donc à savoir qu'il paraît qu'ils vont faire une tentative de rénovation en 2013. On va voir. Bon, mais qu'importe, bah, la bourgeoisie marseillaise, elle continue à vouloir étendre l'implantation de ses activités industrielles et portuaires. Et ça faisait quelques années déjà que, via la chambre de commerce de Marseille, bah, on réfléchissait à la possibilité d'édifier dans le golfe de Fos un port pétrolier et minéralier. Donc on espérait évidemment que ça attirerait des usines pétrochimiques et sidérurgiques. Donc ce qu'avait à gagner la bourgeoisie marseillaise, ben, c'était quand même elle la propriétaire des domaines fonciers vers là-bas. Ils y possédaient quelques bastides qui leur avaient en leur temps assuré un revenu grâce au vin. Eh bien c'est pas grave, ils l'assuraient grâce au béton. Et au passage, les propriétaires de ces terrains pourraient réaliser quelques belles plus-values. Donc en 1961, c'est acté, et la Chambre de commerce et la direction du port vont conjointement annoncer l'aménagement du site de Fos. Donc on va d'abord créer un syndicat mixte qui va regrouper donc les municipalités de la zone concernée, donc toutes celles de l'étang de Berre, et aussi la municipalité de Marseille. Et ce syndicat va commencer à acheter des terrains aux alentours de Fos pour construire le port minéralier et pétrolier. Donc, parallèlement, l'État va créer un organisme qui s'appelle la DATAR et qui va être la DATAR, donc ça veut dire la délégation à l'aménagement du territoire à l'action régionale. Comprennent qui pourra. Et c'est un organisme qui est chargé de définir la future géographie industrielle et urbaine de la France. Et du coup, dans le plan que la DATAR va rédiger en 63, on va prévoir de créer ce qu'on appelle des métropoles d'équilibre, donc 8 métropoles d'équilibre, donc telles que Marseille, et qui allaient être chacune accompagnées de pôles de croissance, donc tels que Fos. Et donc l'idée, en gros, c'était de renforcer le rôle de Paris en tant que centre de direction et de reléguer, enfin d'envoyer les industries dans ce qu'on appelait les pôles de croissance, qu'on allait implanter dans des zones qui, à cette époque, paraissaient pour la France moderne comme étant en sous-développement quasi. Et avec ces métropoles d'équilibre comme relais du pouvoir central. Et donc du coup, on passe en 66, en avril 66, où on va créer officiellement le port autonome de Marseille. Alors cette création, elle va servir à l'État à renforcer sa propre responsabilité et en refilant une petite part de responsabilité à la Chambre de commerce de Marseille, donc à la bourgeoisie marseillaise en gros, et à virer les municipalités du projet. Donc le syndicat mixte qui était à l'origine du projet, donc c'est ce syndicat qui regroupait les municipalités, va être écarté du projet. Et du coup, c'est les 5000 hectares de terrain qu'il avait acheté pendant les 5 ans passés vont être rétrocédés par décret de l'État au port autonome. Du coup, même si la bourgeoisie marseillaise était un peu reléguée à l'arrière-plan, elle continuait à porter ce projet et à croire dans la réussite de l'opération. Et le concept à l'époque qui avait été lancé, c'était que Marseille deviendrait la capitale du Grand Delta. Donc le Grand Delta, c'était un peu l'idée d'un... de développer un triangle industriel qui relierait Lyon, Perpignan et Nice, avec Marseille-Fos en son centre, et avec lequel on allait rivaliser avec l'Europe du Nord. Donc, on va écouter un document de 1971 qui explique ce que sera ce grand projet.
Derrière nous, et bien derrière nous, tout un projet et beaucoup de choses qui vont se passer ici d'ici 1985. En fait, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le plan d'aménagement de la région de Fos-sur-Mer? Christian Guy vous l'explique.
La tour Vigie du port de Fos. 45 mètres de béton qui marque l'un des nouveaux pôles de l'Europe industrielle. Pour la première fois, un aménagement régional est entrepris dans une perspective qui dépasse nos propres frontières. Pour la première fois surtout, l'Europe du Nord n'aura plus seule le privilège de l'industrie et de la création des richesses. À l'énorme zone rhénane s'opposera bientôt ce que l'on appelle le Grand Delta. Pour devenir l'aéroport du Sud, concurrent d'Anvers et de Rotterdam, Marseille-Fos ne peut rester seul face à la Méditerranée. Une zone d'industrie lourde de la dimension de Paris doit lui donner son véritable poids. Décembre 1969, la décision est prise. 1971, les bulldozers s'attaquent au galet de l'Acro. Ici, Ugine Kuhlmann et Solmer, la sidérurgie, c'est-à-dire les hauts fourneaux et l'acier. À côté, la chimie, l'air liquide, ICI, Péchinet, et puis tous les grands du pétrole, déjà concentrés sur les bords de l'étang de Berre, mais un peu à l'étroit. Le gaz de France aussi, pour les produits méthaniers et l'EDF, avec une énorme centrale thermique qui alimentera toute la zone. Enfin, autour des gros, toute une série d'industries de diversification. Fos sera donc le cœur. Pour les industries légères et les entreprises plus petites, 17 zones sont prévues ou en cours d'aménagement dans toute la région. Tout cela, bien sûr, ne peut fonctionner dans l'isolement. Pour le contact avec le reste de la France et de l'Europe, en principe, tout est prévu. Les autoroutes vers l'Espagne et l'Italie, mais surtout vers le nord, la zone du Rhin toujours. Les conduits avec le pipeline sud-européen pour le transport du pétrole brut ou raffiné vers les centres d'utilisation. Et puis, les voies navigables, qui permettront aux gros convois de rejoindre un jour le Rhin ou la Moselle. Tels sont les projets pour les usines. Reste le plus important, les hommes. En 5 ans, la population des villes directement liées à Fos doit doubler. Il faudra construire des logements, des écoles, des hôpitaux, bref, tout ce que l'on appelle les équipements collectifs. Au total, des milliards d'investissements. Aujourd'hui, la région marseillaise est devenue le plus grand chantier d'Europe. Ce qui va s'y faire est ambitieux et surtout difficile. Bien sûr, les usines seront moins tristes au soleil du midi, mais déjà beaucoup pensent qu'elles soulèveront des problèmes plus nombreux et plus graves que n'en posaient les paisibles moutons de l'Acro dont elles vont prendre la place.
Ouais, donc une zone d'industrie lourde de la taille de Paris, c'est ce qu'on promettait pour l'Acro. Et juste pour dire un peu, je vais faire juste un petit retour par rapport à ça. Donc les gens qui ont l'occasion de traverser la plaine de l'Acro peuvent s'apercevoir que de ce grand projet, il ne reste pas grand-chose, ni même la liaison Rhin-Rhône qui n'est plus d'actualité. Juste pour souligner quand même qu'on a à un moment pensé à un projet. Donc on a vendu à tout le monde un projet sur la base du vent. Que quand on a construit le projet de Marseille Fos, il y avait officiellement Esso était la seule compagnie qui avait jamais signé, enfin qui avait décidé, qui avait dit qu'elle allait s'implanter, quoi. Donc c'était un projet qui était basé sur une pure construction spéculative. Où tout était là pour le prouver, taux, indices, statistiques, on allait créer l'activité au milieu de l'accro et la région deviendrait riche. En tout cas, c'est ce qu'on a vendu un peu à tout le monde. Voilà, et juste pour annoncer le montage suivant, je voulais juste revenir sur un truc que je disais tout à l'heure à propos des pôles de croissance, donc qu'on avait décidé d'implanter dans des terres reculées. Et du coup, on voit bien à quel point pour la France moderne, bah, l'accro, c'était l'image même du sous-développement et un territoire complètement vierge à exploiter, pour ainsi dire, le désert. Et ceci en plus à quelques kilomètres seulement de Marseille.